Bonjour, shalom, assalam alaikum. Toutes nos excuses pour ce léger retard que nous accusons à démarrer cette émission, mais nous sommes bel et bien au studio ce jeudi 6 avril 2023 et nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui êtes en place, que ce soit sur Canal FM à Lomé ici ou encore Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix, la voix des plateaux depuis Atakpamé, la ville aux sept collines, Radio Centrale FM à Sokoré au centre du Togo, Radio Daoul en Pays Bassar, Konkomba, Radio Courtoisie à Dapaon, et ce n'est pas fini, dans le monde entier, les médias et autres canaux numériques nous relaient jusqu'auprès de chez vous. Nous saluons les techniciens qui nous accompagnent aujourd'hui, c'est le duo Vitogbe Koku Michel Tomega et Jérôme Kodjo Akucha. Le sage nous apprend, nous apprend que les rumeurs peuvent facilement nous amener à détester quelqu'un d'innocent et aimer une personne manipulatrice et hypocrite. Encore une fois, c'est Eric Emmanuel, notre sage du jour, qui écrit que les rumeurs peuvent facilement nous amener à détester quelqu'un d'innocent et aimer une personne manipulatrice et hypocrite. Et justement, c'est pour ne pas tomber dans ce piège-là que nous vous invitons à écouter le club de la presse au jour le jour et vous avez des personnes avisées qui vous parlent. Eh bien, le club de la presse se présente aujourd'hui sous un format tout particulier. En effet, je reçois une seule personne en invité spécial, et ceci pour aborder des questions politiques, sociales, économiques et autres du moment dans notre cher pays, le Togo. L'invité du jour est présente sur la scène politique du Togo et sur tout sujet concernant les droits humains depuis les années 1990. Elle est une femme juriste de formation et d'enseignement. Elle est également leader politique et elle est la toute première femme à se présenter à une élection présidentielle au Togo. C'était en 2010. Notre invitée vient d'être reconduite comme secrétaire générale à la tête de la Convention démocratique des peuples africains à l'issue du dernier congrès tenu les 10 et 11 mars 2023, parti qu'elle dirige d'ailleurs depuis 2015. Et notre personne ressource de ce jour est aussi la coordinatrice de la dynamique Monseigneur Podro, ce mouvement citoyen composé de 7 partis politiques et de 7 organisations de la société civile, DMK, qui continue à revendiquer la victoire pour son candidat Gabriel Mensah Gbeyome Kodjo à l'élection présidentielle du 22 février 2020. Vous avez deviné, notre invité, c'est Madame Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson. Madame, bonjour.
Bonjour, Sasgaou. Bonjour à tous vos auditeurs et auditrices.
Merci pour votre disponibilité. Je présume et je sais que vous devez être très sollicité par ces temps-ci, mais vous avez pu vous libérer pour nous 90 minutes durant, une heure pour débattre entre nous ici au studio. À partir de 12 heures, nous ouvrons les antennes aux auditrices, auditeurs. Je présume qu'ils doivent être nombreux et déjà impatients de converser directement avec vous. Eh bien, Madame Adjamagbo Johnson, comme secrétaire générale de la CDPA et comme coordinatrice de la DMK, vous défrayez les chroniques politiques ces derniers temps. Quelles sont les orientations données par votre parti, la CDPA, lors de votre dernier congrès qui vous a reconduite comme secrétaire générale? Et comme vous êtes également coordinatrice de la DMK, quelle est la position de la DMK sur les élections à venir dans notre pays en cette année 2023, mais sûrement d'autres questions que nous n'aimerons pas, que nous n'hésiterons pas à aborder si le temps nous le permet. Mais dites-nous d'abord, madame, comment arrivez-vous à porter toutes ces charges et à supporter toutes ces pressions par ces derniers temps, madame?
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dois dire que c'est d'abord une question de conviction et ensuite une question d'organisation.
Conviction et organisation.
C'est pas facile. Je le disais tantôt, les journées sont très longues. On se couche très fatigué. Et on se réveille encore fatigué, mais pourtant, parce que on est convaincu qu'on doit apporter sa contribution pour faire changer les choses, on se remet à courir. Et dans tout ça, eh bien, il y a la grâce de Dieu qui vous accompagne, qui vous maintient debout et qui vous permet, au sein de l'équipe avec laquelle vous menez le combat, eh bien, qui vous permet d'assumer vos responsabilités.
Dieu merci, voilà. La grâce est avec nous, mais les attentes sont diverses, variées, pour ne pas dire nombreuses. En même temps, vous n'êtes pas ménagé, hein, aussi bien dans vos rangs, comme CDPA, comme DMK, surtout avec ce que vous avez en face.
Ah ben oui, c'est pas facile. Parlant de la CDPA, oui, le dernier congrès s'est déroulé dans un climat de discussion franche, vous savez. On est un parti au sein duquel on mène beaucoup de débats. C'est ce qui s'est passé encore au 7e congrès qui a eu lieu la dernière fois. Et vous aviez fait allusion aux orientations qu'on nous a données. Je dois dire que beaucoup de sujets ont été discutés, de sujets politiques, sociaux, économiques. Et s'agissant des sujets politiques, naturellement, après avoir discuté de notre propre parti, que nous considérons comme un outil indispensable à la lutte que nous menons, eh bien, nous avons fait un certain nombre pris un certain nombre de résolutions à l'interne pour renforcer cet outil et être beaucoup plus efficace au sein des forces politique qui mène le combat pour le changement. En dehors de ça, vous doutez bien que nous avons discuté de l'orientation, cette orientation-là que nous avions prise depuis 1992, démocratie d'abord, multipartisme après. Eh bien, à chaque congrès, on la remet sur le tapis, on l'évalue pour voir si on doit la confirmer ou s'il faut conclure que malgré nos efforts, ça n'a rien donné et passer à autre chose. Mais passer à autre chose, ça ne peut être que quelque chose d'égoïste, c'est-à-dire on s'enferme sur soi, d'égoïste, mais à la fois d'illusoire, parce que dans le contexte dans lequel nous sommes, aucun parti politique pris isolément, aucune force politique prise isolément, ne peut relever le défi de changer notre Togo et de le réinstaller sur le socle démocratique sur lequel on l'avait installé par le vote de notre constitution de 92.
Oui, madame, les auditeurs ont noté qu'en une trentaine d'années de vie démocratique, la CDPA vient de tenir son 7e congrès.
Absolument, absolument.
Les autres partis doivent se le tenir pour dire. Lorsque nous aurons les autres partis, nous verrons à quel congrès et ils en sont. Ouais. Mais madame, au lendemain de votre réélection, après votre congrès, vous avez dit, et je vous cite, « Je ne m'accorderai pas de repos tant que je n'aurai pas vu que mon pays est entré en démocratie et que les Togolais sont libres de choisir leurs dirigeants. » Ah bon, comment est-ce que les auditeurs peuvent comprendre en français facile.
Eh bien, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que je suis la première responsable de la CDPA ce jour et c'est le dernier mandat que j'ai sollicité, le deuxième et le dernier que je venais de solliciter et je me suis engagée à faire en sorte que, avant la fin de ce mandat-là, que cette démocratie pour laquelle la CDPA a été créée en 1987 et enregistrée d'abord à Genève le 27 avril, avant de régulariser sa situation au début des années 90, lorsque on a adopté la charte des partis politiques, eh bien, je ne me reposerai pas tant que cet objectif-là ne sera pas atteint. Et ce mandat est placé sous ce signe-là. Et le deuxième point et la deuxième chose qu'on doit comprendre, c'est que c'est aussi un mandat de transition, un mandat au cours duquel nous allons tous travailler à assurer la relève au sein de la CDPA. Assurer la relève, ça veut dire faire en sorte que la jeunesse, que les générations qui viennent après nous, les plus jeunes générations, participent effectivement à la direction du parti, au combat du parti. Et donc, on s'est évertué à renouveler cette direction-là en convainquant, parce que c'est pas évident. Quand on dit que les responsables de partis politiques, on leur fait le procès de confisquer et le pouvoir et ben ce procès n'est pas justifié, hein, en tout cas pour tous les partis, parce que je rappelle qu'il y a déjà eu une alternance, une première fois à la CDPA, et moi, au bout de ce deuxième mandat-là, je compte perpétuer, contribuer à instaurer une tradition, pas plus de deux mandats. Et donc, on a fait entrer beaucoup de jeunes et de femmes au sein de l'appareil du parti, de manière à ce que, eh bien, au prochain congrès, on puisse avoir une masse critique de jeunes bien formés, déterminés, qui ont la hargne de continuer le combat pour le bien-être de ce pays, et bien de jeunes qui prendront la relève.
Eh bien, voilà, Brigitte Adjambo, Johnson qui vient de solliciter et d'obtenir son...
Et donc, troisième point, je redeviendrai simple militante. Mais alors, j'aurai toute la latitude d'apporter ma contribution à ce parti, si tant est que nous ne sommes pas arrivés à provoquer cette démocratie, mais là, c'est plutôt une hypothèse que j'évacue.
Madame Adjambo Johnson, qui vient d'obtenir son deuxième mandat et le dernier, d'après ce qu'elle dit, et en même temps, le parti qui travaille à renouveler ses instances en y faisant adhérer de plus en plus de jeunes, est l'occasion pour nous, madame, d'avoir une pensée respectueuse à l'endroit d'une personne. Votre premier secrétaire général, le professeur Léopold Mensah Nyenevi, que j'ai revu la dernière fois à votre congrès, toujours aussi jeune malgré le poids des âges.
Ben oui, il nous a fait cet honneur-là avec d'autres aînés, hein, par exemple le doyen Tété Kboé qui était là. Il y avait beaucoup d'autres aînés qui ont compris que c'était un moment important dans la vie du parti et qui sont venus ne serait-ce qu'à l'ouverture, même si ils n'ont plus vraiment la vigueur qu'il faut pour rester toute une journée de travail et de discussion.
Merci. Voilà. Au cours du congrès, madame, je présume que la CDPA, enfin les militants, ont eu à réfléchir un peu sur les élections qui se profilent à l'horizon. Déjà pour cette année 2023, les élections régionales, les législatives, en entendant la suite, madame.
Tout à fait.
Vous y avez un peu... vous en avez parlé lors du congrès.
Oui. Il y a eu une commission qui a travaillé sur ce sujet. Et je dois vous dire, s'il y a eu un incident au cours de ce congrès en plénière, c'est justement au sujet du compte-rendu de cette commission-là. Et les passions étaient tellement vives que quand les rapporteurs ont rendu compte, eh bien, il s'en est trouvé parmi les militants qui ont dit « Non, c'est pas ce qu'on a dit !» Alors, la réplique est venue très rapidement. « On a débattu sur cette question-là. Vous avez été mis en minorité et c'est la position de la majorité que nous venons exprimer ici. On ne refera pas ce débat en plénière. » Donc, vous voyez un peu comment les choses se passent. Donc, les discussions ont été vives. Et je pense que les conclusions auxquelles cette commission est arrivée sont des conclusions que j'ai trouvées très sages. C'était quoi? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, mais vous savez, cette histoire-là est très complexe. Nous ne voulons pas vous donner un mandat fermé. Vous dire, oui, vous devez aller aux élections. Non, vous ne devez pas aller aux élections. Mais nous vous renvoyons à la lutte de nos aînés pour l'indépendance. Ils ont été confrontés au même problème, eux aussi, face à des élections et face au risque qu'ils prenaient de voir l'ancien colonisateur manipuler une partie des Togolais, manipuler le scrutin pour que les aspirations légitimes à l'indépendance soient mises en minorité. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait à chaque fois? Ils ont analysé les choses, la tête froide, et ils ont pris des décisions intelligentes à chaque fois. Et certaines de ces décisions étaient de ne pas aller quand il ne fallait pas aller, mais d'aller, d'y aller quand il fallait y aller. Et donc, on nous a dit surtout que nous travaillons en équipe avec en groupe avec d'autres forces politiques. Eh bien, au sein de la DMK, on reconfirme l'orientation démocratie d'abord, multipartisme après. Donc, vous restez dans la DMK et vous jouez le collectif. Vous faites en sorte que...
Nous allons venir à la DMK, mais pour ce qui concerne la position de la CDPA vis-à-vis des élections à venir, oui. Qu'est-ce que le Congrès vous a donné?
Inspirez-vous, faites les analyses et prenez la décision intelligente qu'il faut et nous suivrons.
Donc, voilà. En somme, c'est vous, la secrétaire générale, c'est vous qui, au gré des circonstances,
La nouvelle direction, la nouvelle pas direction. La secrétaire générale. Elle n'a pas voix prépondérante au sein de la CDPA. Nous sommes un parti éminemment démocratique. Je donne mon point de vue comme tout militant, et si ce point et je fais tout pour convaincre que c'est dans ce sens qu'il faut aller. Maintenant, si j'échoue et que je suis mise en minorité, eh bien, je suivrai la majorité.
Donc, vous apprécierez.
J'ai pas le choix
devant
que de suivre la majorité ou de démissionner. C'est ça.
Merci.
On apprécie. On fait des analyses.
Je sens les auditeurs déjà impatients. Je vous prie d'attendre seulement que nous évoluions un peu sur le coup de 12 heures. Chers amis auditeurs et auditrices, vous pourrez entrer en ligne et converser directement avec Madame Adjamagbo Johnson. Mais nous continuons avec justement l'actualité telle que le Conseil des ministres en a décidé hier, et comme le rapporte le journal Le Changement, élections régionales et législatives 2023, les choses se précisent, écrit Le Changement, la période du recensement électoral est fixée entre le 29 avril et le 3 juin. Madame Adjamagbo Johnson, je présume que vous avez suivi le compte-rendu du Conseil des ministres hier. Quelle a été votre réaction spontanée quand vous avez appris que le gouvernement venait de prendre un décret qui ouvre le recensement électoral le 29 avril et le clôture le 3 juin.
L'observation que nous avons eu à faire à la DMK lors de notre dernière conférence de presse se confirme. On avance à pas de charge, on avance dans l'opacité. Et c'est pour ça que nous avons dit très rapidement, nous avons identifié un certain nombre de points faisant partie d'une plateforme de revendication que nous voulons partager avec d'autres forces politiques qui se battent aussi pour le changement, de manière à ce que, ensemble, ces revendications minimales-là, nous puissions les porter et emmener le régime à mettre bas la terre et à prendre en compte nos revendications. Mais est-ce que c'est normal, Saskia, voyez-vous, depuis que cette CENI travaille, on n'a jamais vu un programme pour tout le processus d'organisation des élections. Aujourd'hui, on ne sait même pas si peut organiser des élections régionales et des élections législatives. Est-ce que c'est normal? C'est normal de conduire des élections dans ce flou-là, un flou qu'on entretient justement pour repousser des forces que l'on craint. Mais c'est trop facile, parce qu'on se connaît dans ce pays. On connaît toutes ces stratégies-là, on les connaît. On ne va pas se laisser décourager, mais on va se battre pour que les choses se fassent comme elles devront se faire. Regardez même la composition de cette
nous allons y venir, mais pour ce
regardez, qui montre qu'on veut faire des élections dans l'exclusion
des forces politiques. Pour les élections, c'est vrai qu'il est annoncé pour cette année 2023 les élections législatives et régionales. Et la, la question est posée au porte-parole du gouvernement, professeur Ayewadan, hier, à savoir si on couplait les deux élections ou bien si on les faisait les unes après les autres. Sa réponse est que le gouvernement va continuer par se concerter avec la CENI et en temps opportun, on aura la réponse.
Est-ce que c'est normal, à quelques mois, à 6 mois environ de ces élections, vous pensez que c'est des indicateurs de bonne gouvernance, c'est des indicateurs de transparence des élections qui se préparent, et ce sont des indicateurs qui peuvent donner confiance en ces élections-là? Est-ce que le pays, la question que je veux poser est de savoir si le pays finalement appartient à ceux qui se maintiennent.
Madame, vous savez que
on gère ce pays.
Tous.
Oui, mais on le gère comme on gérerait sa maison. On le gère comme on gérerait sa maison. Dans le mépris total des autres acteurs qui ont un rôle à jouer. D'ailleurs, le gouvernement n'a pas à se mêler de cette histoire-là. C'est la Commission électorale nationale indépendante qui doit avoir la maîtrise de la conduite de ce processus. Mmh. Et annoncer à tout le monde, dans la transparence, un programme, un calendrier pour les élections. On laisse tout dans le flou, un flou artistique, un flou qui cache les arrières.
Pour revenir au recensement électoral qui sera ouvert le 29 avril pour être clôturé le 3 juin, le gouvernement, dans son argumentaire, dit que d'abord, c'est la CENI qui a proposé cette là pour le recensement électoral. Et le gouvernement dit que tout cela, c'est l'aboutissement des travaux qui continuent à se faire au sein de la concertation des acteurs politiques, laquelle CENAP, vous, la CDPA et les votes, vous avez choisi de boycotter, madame.
Et pour cause. Et ceux qui ont choisi d'y participer reconnaissent aujourd'hui que tous ceux sur lesquels ils se sont entendus, eh bien, n'a pas été pris en compte. Et quand on l'évoque, ils sont mal. Quand ils l'évoquent, c'est à peine qu'on les écoute. On s'est servi d'eux pour avoir leur caution et dire aux partenaires du Togo qu'il y a une ouverture, qu'on discute avec l'opposition. Eh bien, c'est tant pis pour eux. Ils ont joué ce jeu-là pour éclipser, pour certains en tout cas, éclipser la DMK. Eh bien, aujourd'hui, nous tous, nous voyons la situation que ça a créée, mais ça ne fait rien. Nous sommes en politique. On apprend toujours de ses erreurs. C'est pour ça que nous disons, le moment est venu pour que ceux-là qui, en allant à cette concertation-là, ont abordé un certain nombre de sujets sur lesquels il y a eu un accord, c'est le minimum qu'ils ont à faire aujourd'hui, c'est de défendre la mise en œuvre de ces points-là qu'on ne veut pas appliquer. Et c'est le minimum.
Les
ou alors le DMK, peuple en tirera.
Oui, oui, les partis membres de la DMK n'ont pas voulu participer aux travaux au sein de la de la CENAP.
Oui.
Certains partis y sont allés, mais se sont rébuffés après. Mais les choses se mettent en place. Et madame,
on a tout fait pour nous exclure. Oui, oui. On a tout fait pour nous
mais
exclure.
Mais ne soyons pas naïfs. À partir du moment où la date du recensement électoral est fixée et que la CENI est en place, hier également, on a la composition des membres des commissions électorales locales indépendantes. Dans le même temps, les opérateurs de saisie sont en formation, madame. C'est que tout se met en place
vers
les
déjà.
Élections. Alors, concrètement maintenant,
oui.
De la CDPA à la DMK,
oui.
Quelle est votre position sur les élections régionales et législatives au titre de cette année
2023? Mais les élections régionales, on a des positions différentes. En ce qui concerne les régionales, nous avons été clairs. Nous pensons que ce n'est pas opportun de les organiser parce que on veut mettre en place un processus qui est déjà biaisé, un processus qui ne fera que compliquer les problèmes de la décentralisation qui pour l'instant ne profite pas encore aux populations. On a mis en place le premier niveau. Est-ce qu'on l'a déjà évalué? À ce jour, c'est évident. Ça se voit à l'œil nu que ces nouvelles entités décentralisées n'ont pas contribué à changer la vie des Togolais au quotidien. Ils continuent de se plaindre au quotidien de ne pas pouvoir jouir de leurs droits économiques et sociaux, qui sont des droits humains fondamentaux. Les besoins sociaux de base, aujourd'hui, ont du mal à être pris en compte. Vous voyez l'état des routes. Voyez l'état de nos centres de santé. Voyez l'état des
madame, on vous répondra que ce ne sont pas les élus municipaux qui s'occupent de l'entretien des routes ou des centres de santé.
Ah, ça dépend. Ça dépend. Et ils ont, en tout cas, des contributions à faire. Mais l'action est de savoir est-ce que ils ont aujourd'hui les moyens financiers adéquats pour remplir leur mission. Est-ce que aujourd'hui ils ont les pouvoirs que une entité décentralisée devrait véritablement avoir pour faire son travail? Est-ce que aujourd'hui ces élus-là, on a mis en place ce qu'il faut pour qu'ils sachent exactement quelles sont leurs responsabilités et comment faire en sorte que ces responsabilités-là soient prises et que qu'il y ait des retombées sur les populations. Les principes de fonctionnement de base,
de la participation n'est pas locale. Exempt de difficultés. Mais maintenant, vient de placer la barre au deuxième niveau, à savoir les régionales. Et la question se précise au jour le jour. Alors, les auditeurs...
Ce n'est pas logique. Ce n'est pas intelligent, ce n'est pas rationnel.
Mais c'est ce que le gouvernement fait. Et les militants veulent savoir si la CDPA ou les partis membres de la DMK... vos militants veulent connaître votre position, soit de la CDPA
notre
ou
position,
de la DMK, sur les
notre
élections régionales.
Position oui. Est que l'organisation de ces élections régionales n'est pas opportune. Ce n'est pas une urgence. Et il y a d'autres difficultés qu'il faut régler. Il faut le faire, consolider le premier niveau de décentralisation avant d'aller au second niveau. Voilà, c'est très clair. Surtout qu'on veut le faire au moment où les Togolais ont faim. Ils ont du mal à se soigner. Ils ont du mal à éduquer leurs enfants. Utilisons ces ressources.
Dans la déclaration que la DMK a rendue publique le 31 mars dernier, je lis que la DMK ne trouve pas, ne trouve aucune opportunité, aucune urgence aux élections régionales dès lors que la feuille de route issue du séminaire national de la décentralisation organisé en 2016 n'est pas respectée et que les communes ont de la peine à assumer leur mission. Plus loin, vous écrivez que la démarche du régime visant à faire émerger un Sénat relève de la diversion, de la manipulation politique, du clientélisme et surtout du désir morbide d'offrir le statut de sénateur à vie et un brevet d'impunité à certains citoyens. Donc, en clair, la DMK, vous n'êtes très enthousiaste pour les élections régionales.
On veut les instrumentaliser. Bon, on veut compliquer nos problèmes.
Oui.
Ce n'est pas du tout sage. Et nous n'en serons pas
complices. Et qu'en est-il pour les élections législatives?
Pour les législatives, c'est un rendez-vous constitutionnel, républicain. On n'a aucune prise sur les dates. La Constitution le dit. Il faut les organiser. Maintenant, la question est de savoir comment commencer à les organiser. C'est là où
Il y a la
nous
CENI,
pensons que...
Nous venons d'avoir les CELI, les OPS sont en formation, la date du recensement électoral vient d'être annoncée. Ça veut dire que le puzzle se met en, les pièces du puzzle se mettent en place, madame.
Sauf que ces pièces-là sont très mal agencées. Il y a même des fausses pièces. Il faut refaire les choses comme il faut. Refaire les choses pour qu'on ait des élections qui soient inclusives. Inclusives, ça veut dire que les forces politiques qui comptent et qui s'opposent à vous doivent être là pour donner confiance. Et comme garantie de la transparence de ces élections-là. Donc, cette CENI, qui est une CENI entièrement, je le dis, contrôlée par le régime, eh bien, il faut la revoir. Et le problème, c'est qu'on refait à chaque fois les mêmes choses. Nous avions déjà fait ce constat-là à l'occasion des élections de 2018. Il a fallu qu'on se batte pour que l'ouverture de la CENI aux forces de l'opposition puisse enfin être faite.
Oui, mais madame, quand on regarde la CENI et ses démembrements, on se rend compte que, et le gouvernement ne cesse de le dire, la CENI et ses démembrements ont été composés en se basant sur les textes du code électoral.
Et qui a adopté ces textes?
C'est
et qui a adopté ces textes. Ça veut dire que ces textes eux-mêmes ne sont pas des textes valables en démocratie. Quelle Assemblée nationale? Une Assemblée nationale monocolore. Alors, interrogez-moi. Mais,
monocolore parce que les partis de la DMK, par exemple, avaient choisi de... Ah non, non. Au sein de l'Assemblée, il y a quand même des partis. Membres de la DMK, le parti de M. Agbemé Kodjo, j'oublie son nom. Elle compte au moins un député dans l'Assemblée actuelle.
Ah ouais, qu'est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire quand on a... c'est pour ça qu'il faut juste conclure que cette Assemblée est monocolore. L'opposition n'est pas représentée. L'opposition qui est représentée et qui... Et qui prend la parole ne prend pas la parole pour défendre le peuple. Il ne se comporte pas comme des élus d'un peuple dont la majorité, l'immense majorité, veut être gouvernée autrement. Sinon, les lois qui ont été adoptées n'auraient pas été adoptées.
On vous répondra.
Sinon,
que
la composition de la
CENI ont été composées encore une fois en se basant sur les lois et dans les CELI. Hein, les CELI rendus publics hier, on y voit bien sûr des membres de l'administration, des juges. On y voit également des membres du Parti Uni.
Approfondissons.
Mais il y a également d'autres partis parlementaires et même des partis extra-parlementaires qui ont envoyé des délégués figurant au sein
des CELI. Les membres de l'administration, vous les connaissez. Il n'y en a pas mieux qui veulent le changement. Mais ils sont sous pression. Ils doivent agir dans le sens de ceux qui se sont maintenus au pouvoir. Les juges, vous connaissez aussi leurs problèmes. Vous savez comment ce régime instrumentalise les institutions. Alors, quand vous avez dit ça, parlons des représentants des partis politiques. Les quelques partis politiques dits de l'opposition qu'on a admis, vous voyez combien défendent vraiment les intérêts des Togolais. Vous voyez leur sortie. S'ils défendaient vraiment les intérêts des Togolais, il s'est passé beaucoup de choses dans ce pays sur lesquelles ils ne se seraient pas tués. Je veux parler de ce dossier Covid, le plus récent, qui vraiment indigne les Togolais. Qu'est-ce que ces élus du peuple ont fait pour aller dans le sens des aspirations des Togolais à la justice.
Mais madame, pour revenir au sujet de notre émission, voilà les choses telles qu'elles se font. Alors, la CENI, elle est composée avec ses démembrements, comme je l'ai dit tantôt. Hein, il y a la CENI, il y a les CELI, il y a les opérateurs, les techniciens qui sont déjà en formation pour le recensement, dont nous venons d'avoir la date. Alors, clairement, quelle est la position de la CDPA et des partis membres de la DMK sur les élections législatives, madame?
La position, nous avons dit...
Est-ce que vous y allez ou
c'est,
vous y allez?
C'est un rendez-vous républicain, oui. Et nous allons nous battre pour que les conditions d'inclusivité, de transparence soient réunies, pour que nous y allions. Et nous avons foi que... En nous battant véritablement, nous ramènerons le régime à comprendre que c'est ce que les Togolais veulent et qu'il doit y donner sa
merci. Je me réfère encore une fois à votre déclaration rendue publique le 31 mars, quand vous souhaitiez, disons, la réforme. D'abord, vous souhaitiez un certain nombre de mesures allant dans le sens de l'apaisement dans le pays, mais également vous en appeliez à des réformes. Vous demandiez de réformer la CENI et même la Cour constitutionnelle d'un côté, mais vous avez fini par un appel que la DMK a lancé à l'endroit des différentes couches de la société togolaise et même de la classe politique. Et vous écrivez, je vous cite, de saisir cette opportunité des préparatifs de ces futures élections législatives pour s'accorder sur une plateforme de revendication assortie d'un programme d'action concerté et planifié afin de sauver notre République en péril. En français facile, on peut y comprendre que les partis membres de la CDPA ne sont pas si fermés.
De la DMK.
Les partis membres de la DMK ne sont pas si fermés que ça pour les élections législatives.
Ils sont responsables. Ils sont responsables parce qu'ils ont le souci de l'intérêt général. Et pour compléter ces points que vous avez mis en exergue, vous aurez remarqué que nous avons mis en tout premier lieu l'accent sur les conditions politiques qui doivent être réunies. Notre pays est en crise politique malgré la situation de déni de ce régime. Il ne faut pas être aveugle. Il suffit d'ouvrir un peu les yeux pour voir que dans ce pays, les choses ne sont pas normales. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses soient normales? Un pays dit démocratique ne peut pas avoir plus de 100 détenus politiques
et notamment
dans les prisons.
Si on changeait de gouvernance, s'il y avait alternance à l'Assemblée, les choses pourraient commencer à se faire autrement, n'est-ce pas, Mandat?
Il faut même que ça se fasse avant, si on veut apaiser les cœurs. Ensuite, dans un pays démocratique, à la suite d'élections présidentielles, les choses ne se passent pas comme ça s'est passé. Mm-hmm. On refuse de discuter avec les challengers. Et on non seulement on refuse, mais on fait en sorte de les renvoyer
en exil. La main tendue, madame.
Ah ben, monsieur Agbeyome Kodjo, qui a été le candidat plébiscité, le candidat de la DMK.
Ça,
il se trouve où?
Ça, c'est votre version.
Officiellement,
Agbeyome est arrivé deuxième après le candidat Fanny Asimbi.
Oui, mais nous contestons. Ça aussi, c'est objectif, c'est connu. Et nous avons réaffirmé cette position parce que nous pensons que le mythe de Sisyphe n'est pas acceptable. Mm-hmm. N'est pas acceptable. Il ne faut pas que les gens croient que on veut tourner la page du 22 février 2020. Mm-hmm. Aucun, personne n'a intérêt, aucun acteur politique ayant le souci du bien de ce pays ne peut raisonnablement dire
merci,
tournons
madame,
la page.
Merci, madame.
Ne serait-ce que parce que en s'inspirant du 22 février 2020, on fera en sorte que plus jamais ces situations-là,
l'élection législative contestée, se reproduise. 2020 revient
voilà.
À votre candidat.
Donc le retour,
c'est une autre bataille.
Le retour des exilés.
Oui.
Notamment Monseigneur Philippe Fanouko Kodjo et M. Agbeyome Kodjo est une exigence des Togolais.
Pour la paix,
la libération la des détenus.
Mais madame, quand on revient encore une fois à votre déclaration du 31 mars, beaucoup de personnes comprennent que les partis membres de la DMK vont plutôt aller aux élections. Et depuis son exil, Monseigneur Kodjo aussi l'a compris ainsi. Et comme on le connaît, il ne s'est pas privé de s'exprimer. Dans une sortie à un plateau d'émission où vous étiez en direct, Monseigneur Kodjo a été contacté et il a dit clairement qu'il il n'entendait pas qu'un mouvement portant son nom aille à une quelconque élection et que si on se hasardait à le faire, on le trouverait sur son chemin. Madame, vous aviez le privilège d'être sur ce plateau d'émission quand Monseigneur Kodjo s'est inscrit en faux contre la tentation, sinon la décision de des partis membres de la DMK à aller aux élections législatives.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Et vous avez entendu ma réponse. Je voudrais d'abord rectifier le résumé que vous venez de faire de sa position. Il n'a pas parlé de quelconque élection. Il a parlé de simulacre d'élection.
Mm-hmm. Oui.
Et il a parlé de participation contre le peuple. On est en parfaite symbiose. Moi, personnellement, j'ai toujours combattu depuis plusieurs décennies dans ce sens-là. Et je n'entends pas changer d'orientation.
Donc,
vous avez bien vu que nous avons donné la garantie à Monseigneur que nous nous battrons pour que ces élections ne soient pas un simulacre d'élection.
Bon, peut-être que vous comprenez entre vous, madame, mais dans l'opinion et même dans les médias, la compréhension qu'on a, c'est que Monseigneur Kodjo s'inscrit en faux contre la décision des partis membres de la DMK d'aller aux élections législatives. Et aujourd'hui encore, le journal Canal D écrit le diktat de Kodjo et le changement lui écrit élections régionales et législatives, législatives 2023, Monseigneur Kodjo contre les participationnistes, dont peut-être les partis membres de la DMK. Et aujourd'hui encore, suite au communiqué de presse rendu public par la DMK hier, Liberté écrit: malgré les réserves de Monseigneur Kodjo, la DMK réitère sa participation aux prochaines élections législatives. Alors, dites-nous, madame.
C'est un titre, un intitulé, le dernier intitulé, oui, là, qui n'est pas complet. Mm-hmm. Il aurait fallu ajouter et sa détermination à se battre pour une plateforme revendicative, mm-hmm, devant conduire à des élections inclusive, mm-hmm, transparente et démocratique. C'est tout.
Donc, en somme, si vous vous battez et que vous arrivez à obtenir les conditions d'une inclusion inclusive et transparence, les partis membres de la DMK y iraient, n'est-ce pas,
nous,
madame?
Nous devons l'obtenir et nous nous battrons pour ça. Alors, pendant que nous voulons, nous venons de commencer le combat, nous voulons être totalement positif et avoir toutes nos énergies et nous concentrer uniquement sur ce combat-là, mmh, que nous allons mener. Et donc, vous verrez, on en tirera les conclusions, oui, madame, qui pour nous, oui, qui pour nous constitueront forcément une avance.
Alors, mais est-ce que vous comprenez, voilà, que la sortie de Mgr Kodjo crée un certain malaise, pour ne pas dire une certaine incompréhension, oui, au sein de l'opinion?
Oui, oui, tout à fait. Et c'est notre rôle d'expliquer. C'est notre rôle d'expliquer. Et c'est ce que nous avons commencé à faire à travers le communiqué que nous avons publié hier soir, mm-hmm, dans lequel nous reconnaissons sans ambiguïté, comme tous les Togolais, le rôle ô combien précieux, et louable et déterminant, et les efforts que Monseigneur fait pour sortir ce pays du régime dictatorial qui le régente depuis plusieurs décennies. Et son combat, il n'a pas commencé seulement en 2020, chacun sait, moi j'étais encore enfant pratiquement quand on a organisé le sacre de Mgr Kodjo, un sacre contre lequel ce régime s'est élevé parce que, considérant que ce n'est pas une personnalité qui va composer et qui va se taire. Oui. Hein, sur les injustices.
Ces événements se
j'étais
sont
dans cette salle.
En 1975-76.
Bien sûr. Bien
il y a sûr. De cela oui. une cinquantaine
j'étais
d'années.
Dans cette salle.
Après, Mgr Kodjo oui. a fait son chemin. Oui. Il a été intronisé évêque de Kapamé.
Il a joué un rôle important à la conférence nationale.
Donc, il a été le président. Il a été le
il président, a été président du parlement de transition. Oui.
Mais pour l'actualité maintenant, oui, les élections, encore une fois, deviennent de plus en plus imminentes.
Oui.
Il y a votre communiqué du 31 mars,
oui.
il y a ce que vous avez sorti encore hier pour éclairer l'opinion.
Oui.
Mais est-ce que il n'y a plus de une ombre de compréhension entre la conférence des présidents de la DMK d'un côté, Mgr Kodjo de l'autre, et même M. Agbeyome encore de l'autre? Est-ce que au sein de ces trois entités, est-ce que vous rimez vraiment en phase?
Ce que je peux vous dire, c'est que la DMK est au complet. Quand les gens prédisent déjà la fin de la DMK et s'en réjouissent, ce qu'il faut leur dire, c'est que sont venus à la DMK des gens convaincus qu'il n'y a que collectivement qu'ils peuvent gagner cette bataille contre ce régime dictatorial. Et ils resteront là, quoi qu'il arrive, pour jouer ce rôle-là, mm-hmm, pour mener ce combat qui doit rester et restera combatif. Et non seulement ça, nous prenons déjà des contacts. À l'heure où je vous parle, des courriers sont distribués partout. Pour être dans l'action après le communiqué d'hier dans lequel nous avons représenté à nouveau les points de la plateforme revendicative. Il s'agit de discuter rapidement avec d'autres forces politiques pour mener le combat. Mm-hmm. Et nous, on est dans l'action. On est dans l'action et vraiment, je voudrais saisir cette opportunité pour inviter tous les Togolais mm-hmm. à concentrer à partir de ce moment leurs efforts sur cette phase du combat mm-hmm. dans laquelle nous sommes rentrés et qui n'est pas en rupture avec ce que nous avons commencé à faire au lendemain des élections de 2020. Nous voulons faire en sorte que ces opportunités qui se présentent là mm-hmm. soient utilisées,
notamment les élections législatives,
pour consolider ce qui a été fait en mm-hmm. 2020 et pour nous mettre davantage en pole position dans la posture hein, de pouvoir mieux ramener l'alternance pour laquelle on a
voté. Et c'est pour obtenir ça que vous en appelez à d'autres forces politiques,
absolument. C'est une question de responsabilité.
Et pour obtenir des conditions d'une élection, enfin, d'élection vraiment inclusive et transparente, et comme ça, les partis membres de la DMK pourraient y aller.
Oui, et il y a toutes les chances.
Oui.
Il y a toutes les chances que nous rassemblions un maximum de partis. Oui. Ceux qui sont allés à ces discussions reconnaissent aujourd'hui oui. qu'ils se sont fait avoir. Donc, le minimum qu'ils puissent faire, c'est se battre pour que ce minimum obtenu là, pendant les discussions, oui. soit appliqué.
Et si vous y arrivez, sinon, vous comptez avoir la bénédiction de Mgr Kodjo pour les élections législatives?
Mais Mgr Kodjo serait rassuré en voyant que, eh bien, il ne s'agira pas de simulacre d'élection mm-hmm. ou d'élection contre le peuple, mais qu'au contraire, on s'est organisé, on a mis à profit nos expériences passées, on en a tiré leçon, et que les conditions internes à notre groupement et externes sont remplies pour que nous remportions ce combat-là hein, que nous menons dès les lendemains de 2020 ou que on soit renforcé pour on les aura.
Merci. Alors, nous tendons vers la fin de la première partie. Et si je viens bien suivi, la DMK ne trouve pas d'intérêt, ne trouve aucun intérêt aux élections régionales.
Oui.
Par contre, pour les législatives, vous y voyez une opportunité de commencer à consolider les acquis démocratiques, un chemin, une occasion pour aller à l'alternance. C'est pour cela que vous demandez des mesures d'apaisement, vous demandez des réformes des institutions comme la CIN, la Cour constitutionnelle, et vous en appelez à une mobilisation entre acteurs politiques et toute la société civile pour des élections inclusives, transparentes, et là, vous comptez avoir la bénédiction de Mgr Kodjo.
Bien sûr.
Merci. Bien sûr. Il est 11h59. Nous allons souffler un peu le temps que vous prépariez à co-animer avec nous par le biais des deux numéros, le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. Cette émission spéciale avec la secrétaire générale de la CDPA, la coordinatrice de la DMK, madame Brigitte Kafuya Djamago Johnson, pour l'essentiel. Quelles sont les positions et de la CDPA et de la DMK vis-à-vis des élections législatives et régionales? Si je résume ainsi, vous avez suivi. Maintenant, c'est nous vous ouvrons les antennes. Il y a déjà une autre ligne. Oui, bonjour.
Bonjour, vous me recevez correctement?
Oui, c'est monsieur.
Ok, je veux passer à l'émission en fait.
Oui, vous êtes monsieur.
Je veux passer à l'émission.
Vous êtes en direct, c'est monsieur.
Ok, j'ai deux questions juste à l'endroit de l'honorable Madame Johnson, tu crois?
Djamago Johnson?
Oui, tout à fait.
Oui, allez-y.
Bonjour, d'abord, Saf. Bonjour, Madame.
Merci. Allons-y rapidement, le temps est compté.
Bonjour,
pour nous.
Bonjour, Madame.
Bonjour.
Allez-y directement.
Bonjour, j'ai l'impression qu'il ne nous entend pas.
Oui, je vous reçois très difficilement aussi.
Ah, c'est ça.
Que vous m'entendez. Si vous m'entendez, je vais parler.
Nous, on vous entend.
Très bien, très bien. Madame, depuis l'arrivée du multipartisme au Togo, je crois dans les années 90, alors que nous, on venait de naître, et je crois que ça fait pratiquement 30 ans, bien 33 ans précisément, si c'est à partir de 90. On est toujours dans la même stratégie avec l'opposition, on se bouge, réforme. Rien ne change. Nous qui sommes nés dans les années 80-90, nous sommes grands aujourd'hui, on a pratiquement 30 ans et plus. Et on remarque que, en fait, nous faisons confiance à des gens qui, il faut dire la vérité, c'est l'échec. Aujourd'hui, c'est l'échec parce que toutes les stratégies mises en place par l'opposition n'ont amené à rien. C'est le même régime qui est en place que nous subissons. Regardez par exemple le chômage, le taux de chômage. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut changer de stratégie maintenant? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut changer de stratégie? Parce que c'est comme si nous sommes aujourd'hui sacrifiés. Ça, c'est la première des choses.
Oui, la seconde.
La deuxième chose, j'ai vu la liste des membres de CELI hier, qui a été rendue publique. Je remarque qu'il y a même des partis, il y a des partis comme, je peux citer si vous permettez, le PSR, que je ne retrouve pas sur le terrain, mais qui sont à la CELI et qui sont toujours dans les CELI. Madame, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut que vous fassiez quelque chose? Quand vous demandez réforme, avec les mêmes stratégies, que ça ne change pas, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut changer de stratégie? Et puis, c'est les mêmes personnes.
Vous êtes merci, les mêmes. Merci beaucoup, l'ami qui fait le constat que jusqu'à cet instant, il fait le constat que l'opposition a échoué. Est-ce qu'il ne faille pas changer de stratégie? Et puis également, pour ce qui concerne certains partis de l'opposition, dont on voit les noms dans les CELI. Deuxième auditeur, bonjour.
Bonjour, Madame la Présidente.
Oui, Papa Sibiti.
Elle
est pour le moment secrétaire générale de la CDPA, coordinatrice de la DMK.
Présidente, même président de la République, c'est pas plus fort que sa tête. Hein.
Là, c'est vous qui dites. Donc,
c'est l'enfant de mon grand patron, mon papa, le docteur Adjamabou,
oui.
Qu'elle même sait et que vous connaissez.
Oui.
Bonjour, Madame la Présidente.
Bonjour, Papa Sibiti.
Oh, que Dieu bénisse votre papa dans la tombe. Vous voyez,
amen, amen.
Il y a quelque chose qui se passe. Monseigneur Kodro, c'est un homme de Dieu, de loin et de près. Mais ce que vous venez d'avancer en 75 pour le sacre, si c'est ça, à ça qu'il s'en tient, ce n'est pas bon. Chaque 4 heures, 5 heures moins 10, les chrétiens, la radio commence par les prières. Un jour, j'ai écouté, toi qui refuses de pardonner à ton prochain, tu demandes à Dieu de te pardonner, il ne te pardonne. Donc, Monseigneur, vu ce qui s'est passé depuis 75 pour son sacre, il faut qu'il pardonne en tant qu'homme de Dieu, pour que les choses aillent bon. Maintenant, pour les élections,
oui.
Madame la Présidente, vous êtes là, moi j'appelle comme ça, vous êtes là pour conquérir le pouvoir. Et ce pouvoir, vous devez tout faire. Les gens venaient de vous poser des questions. Non, Monseigneur Pedro, c'est un homme de Dieu. La religion et la politique, non, il y a... Ça ne peut pas.
Merci, merci Papa Sibiti. Nous allons passer au troisième auditeur en ligne. Bonjour.
Bonjour, Fiat.
Oui.
Monsieur Garo.
Nous vous écoutons, Monsieur Garo.
Bonjour, madame.
Bonjour, Monsieur Garo.
Madame, ma question, vous devez me répondre. Vous savez, nous sommes dans le même bus. Si le chauffeur ne conduit pas bien, j'ai le droit de lui dire ça. Bon, voilà. Vous avez dit tout à l'heure que l'Assemblée est monocleur. Bon. 8-8, vous avez fait quelqu'un laisse, quelqu'un prend. La liste électorale, vous avez fait quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Législative, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Moi, je ne suis pas contre vous. Est-ce que si vous êtes banquier, quelqu'un vient faire un prêt, vous lui donnez l'argent, il gaspille. Vous allez continuer tous à lui donner l'argent. C'est nous, peuple, qui vous donnons l'argent. Vous devez nous rendre compte. Voilà ce qui se passe. Si par exemple, élection présidentielle de 2025, vous allez encore commencer à réclamer pour 2020. Nous devons avancer. Les gens disent que je cautionne le pouvoir, mais non. Si vous ne pas, je vais le dire, mettez bonne journée.
Merci, monsieur Gado. Le suivant, bonjour.
Allô?
Oui.
Bonjour, mon patron.
Bonjour.
Alors, c'est Patrick.
Oui, allez-y rapidement, s'il vous plaît.
D'accord. D'abord, une petite question pour madame. Madame, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Patrick.
Patrick.
D'accord. Madame, quelles sont vos relations personnelles, je dis bien personnelles, avec le président de la République actuelle, à part votre rang au niveau de l'opposition? Ça, c'est un. De deux, je suis d'accord avec vous que les élections régionales, là, ne sont pas nécessaires pour le moment, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on doit régler avant cette élection. Sur ce point, nous sommes d'accord. Mm-hmm. Mais, ma dernière question est celle-ci. Si aujourd'hui, il arrivait que vous preniez l'intérêt de ce pays, quelles seront vos priorités? Merci.
Merci. Vos priorités si vous arriviez à la tête du Togo?
Oui, allô?
Oui, bonjour, le suivant.
Oui, bonjour, monsieur Sasgao.
Oui, c'est monsieur?
Yador Gerson, groupe opposé pour vous sauver l'aide de l'humanité.
Ok.
Monsieur bonjour, Gerson. Madame.
Bonjour, chers compatriotes. Bonjour.
Oui, j'aimerais vous supplier face à l'échec cuisant de la classe politique togolaise tout entière. Vous pouvez trouver un canevas pour participer aux élections législatives du monde pour nous permettre en 2025 d'exhiber les preuves de l'alternance pacifique déjà chèrement acquise sans aucune effusion de sang. Mm-hmm. Merci beaucoup.
Je vous en prie, l'ami.
Madame la présidente.
Merci, merci l'ami Gerson. Nous prenons le suivant. Oui, l'ami. Oui, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, c'est monsieur.
C'est Yamavo.
Oui, allez-y.
Oui, je salue madame au plateau.
Oui.
Bonjour, cher compatriote.
Une fois. Excusez-moi. Hein.
Oui.
Excusez. Une fois, au cours d'un débat, un monsieur me disait que je ne suis pas capable d'aller à la présidente dire ce qu'il faut que l'opposition de ne pas les suivre. J'ai dit quoi comme par exemple? Il dit que je ne suis pas capable d'aller dire au chef de l'État ça suffit. J'ai dit non, je ne peux pas suivre l'opposition. On ne peut pas aller dire à un chef d'État comme ça. Ce qu'on veut, on n'a qu'à être clair. Par exemple, si je prends le cas de l'opposition, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils n'ont qu'à nous dire qu'actuellement, ils sont prêts à faire une liste unanime. S'il veut aller en rang dispersé, il ne peut pas avoir les procès-verbaux. Je les en prie. Il n'a qu'à faire un peu de poids parce qu'actuellement, chaque jour, on est en train de créer les opposants. Moi, je n'étais pas aligné derrière l'opposition. Juste après les histoires de PND trading là, moi, je suis désolé.
Merci beaucoup, monsieur Nyanavo. Je vous en prie, tenons-nous-en au sujet pour gagner du temps. Le suivant, bonjour.
Allô, Georges.
Oui, Georges.
Bonjour, madame Agenato.
Bonjour, cher compagnon.
Je vous aime beaucoup. Je crois que je vous aime trop même. Mm-hmm. Mais je crois qu'il est temps pour vous de porter le manteau politique. Cette histoire de TNK, il faut mettre fin à cela. Je ne sais pas ce que M. Adbeyemi pense des élections à venir. Mais ce qu'on attend maintenant, c'est votre position et la position de Monseigneur Pedro. À chaque fois, non seulement la DNK, l'opposition, mais vous commettez des fautes. Et ça nous coûte cher. Quelqu'un est venu, il a dit qu'il est né dans les années 90. Aujourd'hui, il a combien d'années? Et vous êtes toujours là. Vous êtes une femme capable de diriger ce pays. Mais vous commettez toujours les mêmes fautes. Et chaque fois que vous venez à la radio, pas seulement vous, hein. Je vous écoute tous. Moi, je ne fais pas partie des partis politiques. Chaque fois que vous venez, au lieu d'attaquer le parti au pouvoir, vous vous attaquez entre vous-même. Quand on lit entre les lignes, c'est ce que vous faites. Mais notre génération est en train de partir. Les jeunes d'aujourd'hui ne s'identifient plus à vous. vous devez changer votre façon de faire. Le prélat, il a fait son temps. Il a fait son temps. Nous avons boycotté l'élection de 2018. Ça a été une grave erreur de votre part. Pas vous seulement, hein. Je parle de la C14. Et là où nous en sommes aujourd'hui, c'est à cause de 2018. Parce qu'il y a eu une assemblée monocolore et ils ont changé les tests. Vous devez approcher M. Apébon, approcher Jean-Pierre Fabre, approcher tous ceux-là qui veulent le changement pour ce pays et faites-le maintenant. Merci beaucoup.
Je vous en prie, l'ami Georges, qui passe le témoin au suivant. Bonjour.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonsoir. C'est M. Martin, j'appelle de Zanguera.
Martin, depuis Zanguera, nous vous écoutons.
Oui, mais ce que moi j'ai vu à vous dire, Madame, je la salue.
Bonjour, chers compatriotes. Comment vous allez?
Oui, ça va très bien.
Oui.
Mais la politique au Togo, là, moi, j'ai trouvé que vous êtes avocate et il faut s'en charger à régler nos problèmes frontières. C'est la politique. Merci, j'en ai fini.
Merci beaucoup. Plutôt vous aider à régler vos problèmes fonciers, autres sociaux, plutôt que d'aller en politique. Le suivant, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Merci pour votre émission du jour.
C'est
une toute petite question. Madame nous dit toujours, là, en soutenant l'idée du professeur Ninozi, d'être en démocratie d'abord, multipartisme ensuite.
Oui.
On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais dans la démobilisation de l'opposition jusqu'à présent, j'aimerais bien savoir quelle est sa procédure et qu'elle pense pouvoir faire, quel cheval de bataille adopter pour avoir un maximum d'adhésion et songer elle-même également à être un candidat. Pourquoi pas? La CDVA nous a longtemps perdu, hein. D'avoir fait les desiderata de l'IFC, laisser la chose à un autre, et puis après de s'être également évanoui en 98 dans le même contexte. Mm-hmm. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à prendre les taureaux par les cornes? Et maintenant, comment penser à une remobilisation de la population comme il faut en bon terme?
Oui.
Parce que là, maintenant, nous sommes en train de désolidariser de vous voir devant tant d'échecs. Merci.
Merci. Nous allons prendre le tout dernier auditeur pour laisser le temps à madame de répondre.
Bonjour. Allô, bonjour.
Bonjour.
Et si
enfin une dame.
Oui, enfin une dame.
Oui.
Oui, bon. Depuis 90, on demande la liberté, la démocratie, les réformes démocratiques, tout ça là. Depuis Code 1, Code 2 jusqu'à ce jour. Alors qu'on a une constitution en bonne et due forme qui règle tout ça là. Comment madame le comprend? Comment Brigitte comprend ça? Et personne ne porte plainte. Normalement, on devrait porter plainte contre le fait qu'on bloque l'évolution de ce pays par des ruses, tout ce qu'on veut. Et puis, on fait tout pour nous ramener le parti unique, surtout en 2018. Où les gens ont atterri à l'Assemblée, où ils ont remis les 12 mandats du régime à zéro. Du moment où ils l'ont réduit à zéro, c'est qu'ils ont monarchisé la République. Et puis, ils ont supprimé les manifestations. Et il paraît qu'ils ont touché à 24 articles de la Constitution, de la C92. Qu'est-ce que ça n'est? Personne ne dit rien. On ne porte pas plainte. Et puis, pour ce qui s'est passé en 2020, là, où la DMK, qui est pourtant un partenaire de l'ANC, s'est attaquée qu'à ce parti, qui n'a jamais collaboré, qui a payé le prix fort de la dictature par des persécutions, voilà. Moi, j'ai pas compris. Il fait des guerres entre les deux trucs. J'ai pas compris. Et on a laissé le régime en paix évoluer tout seul.
Merci.
Merci. Et puis, j'aimerais qu'on arrête les élections. Hein. Il faut qu'on... Ça n'a plus de sens.
Arrêtez carrément. Et on fait quoi ici?
On n'a qu'à continuer à nommer et de nommer les gens, comme le régime a l'habitude de le faire, jusqu'à ce qu'ils en soient vraiment fatigués. Ils sont fatigués comme nous aussi, quoi.
Merci.
Mais bon,
merci.
qu'on garde cet argent pour autre chose.
Merci. Vous êtes un certain nombre à intervenir et vos interventions sont allées dans tous les sens. Le temps que madame ordonne ses papiers pour vous résumer ses réponses, ce petit clin d'œil au partenaire.
93.5.
Eh bien, madame, vous notiez quand les auditeurs appelaient, leurs propos sont allés dans tous les sens, hein, l'échec de l'opposition jusqu'à présent. Quelle stratégie, notamment propre à vous-même, de la CDPA, également Monseigneur Kodjoro, qui est plutôt religieux, les auditeurs vous demandent de vous assumer vous-même comme politique, et puis les petites guéguerres entre vous-même de l'opposition, pourquoi ne pas aller avec une liste commune, etc. Madame,
merci beaucoup à tous mes compatriotes qui ont voulu s'exprimer et me dire des choses. Beaucoup ont fait pour les commentaires, les suggestions. Je les ai enregistrés. Je voulais commencer par le problème de la stratégie. Mes compatriotes semblent être fatigués par le fait que on va aux élections et à chaque fois on rencontre les mêmes problèmes. Mm-hmm. Et beaucoup sont tentés de dire ce n'est même pas la peine d'aller. C'est ce que l'appel rare, hein, Madame Essi fait partie de l'appel rare en politique, des femmes en politique, et elle intervient à chaque fois, elle dit ce qu'elle pense. Mais je voudrais dire que le désintérêt de la chose publique, le désintérêt de la conduite de notre pays n'est pas la solution. Personne ne viendra faire à notre place. La lassitude, nous devons surmonter la lassitude et dire remettons le métier à l'ouvrage. Et tirons leçon des expériences passées pour mieux faire. Pour ce qui est des stratégies, mais mes compatriotes doivent se sentir libres de faire des propositions de stratégie. Les chefs de parti n'ont pas le monopole du savoir. Ils n'ont pas forcément, ils sont pas les seuls à détenir la vérité sur ce qu'il faut faire. Encore qu'en politique, c'est difficile de dire où est exactement la vérité. Quel est le bon choix? Donc, je voudrais dire à nos compatriotes, de grâce, le moment est venu, il ne faut pas tergiverser, il faut aller à ce combat-là. Et nous sommes ouverts. Je suis ouverte pour discuter avec mon jeune compatriote qui a 30 ans maintenant et qui nous montre exactement qu'il est temps de nous réveiller. On ne peut pas mener un combat et au bout de 30 ans ne pas avoir la solution. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit se décourager. Les stratégies auxquelles il pense éventuellement, qu'il les exprime. J'aurais été très à l'aise qu'il fasse des propositions que nous étudierons. Et donc, on étudiera. Je veux dire quelque chose. Non seulement ne pas participer à ce combat, mais refuser de participer à ce combat n'est pas une bonne chose. Mais il faut se dire, nous sommes responsables, nous le peuple. Chacun est responsable. Et si nous mettons nos forces ensemble, nous allons facilement changer le sort de ce pays. Si, enfermés dans un cadre institutionnel, les partis politiques utilisent les stratégies qui sont à leur disposition, eh bien le peuple, lui, n'est pas lié. Le peuple peut même décider, pendant que ce combat est en train d'être mené,
deux ou trois auditeurs vous ont demandé de prendre langue avec vos camarades de l'opposition,
oui,
de taire les guéguerres,
d'aller
en rang uni devant le
pouvoir. Ils ont raison. C'est le deuxième point sur lequel je voulais intervenir. Ils ont raison. Je l'accepte. Et nous l'avons annoncé dans notre communiqué que nous avons lancé l'appel. Mm-hmm. Et à l'heure où je vous parle, des gens sont en train de distribuer les courriers pour qu'au plus tard, la semaine prochaine, on s'assoie, qu'il y ait des rencontres bilatérales qui vont aboutir à une rencontre de tous les acteurs qui sont parties prenantes pour qu'on travaille et qu'on fasse revenir à la raison ce régime. Et qui demande, on se demande même si on ne leur rendrait pas service en s'organisant de la sorte. Et nous sommes sûrs que si nous sommes ensemble et si nous nous battons vraiment, nous arriverons à renverser le cours des choses. Et je veux dire à Papa Sibiti qu'il ne faut pas faire ce procès-là de revanche qu'il croit que Monseigneur est en train de prendre. Monseigneur prêche le pardon et il ne peut pas dire qu'il n'a pas pardonné ce qui s'est passé en 1975. Son combat est motivé par le fait qu'il est préoccupé par la situation de son pays. Il veut que ça change, il a dit. Il veut voir le changement de ses yeux avant de partir. Sauf que c'est compliqué et nous sommes tous là-dessus. Nous sommes convaincus que si on arrive à créer une synergie, vraiment, nous obtiendrons les résultats que nous voulons. Et les partis politiques qui ne sont pas de la DMK seront contactés pour qu'ensemble, on fasse ce qu'il y a à faire, on remplisse notre devoir. Le manteau politique, oui, c'est celui que nous portons. Et celui que nous portons en prenant la décision. Après avoir constaté que le rendez-vous des législatives est un rendez-vous républicain, en prenant nos responsabilités pour travailler à ce que ce rendez-vous républicain se déroule dans les conditions qu'il faut et que, à terme, nous puissions satisfaire aux aspirations d'alternance de notre peuple.
Merci, madame.
Je pense que changer notre façon de faire, encore une fois, nous sommes ouverts. C'est ce que nous essayons de faire, mais nous sommes ouverts à toutes les propositions que les citoyens peuvent nous faire. Porter plainte, c'est une préoccupation de ma sœur ici. Oui, on veut bien, mais quand on porte plainte, on le fait où? Ici au Togo ou à l'étranger? Je veux juste rappeler qu'on a porté plainte, Agbeyome Kodjo a porté plainte à l'étranger devant la Cour de justice de la CDAO, qui lui a donné raison. Mais on attend toujours, depuis un an maintenant pratiquement, que le régime en responsable applique
merci, madame,
cette décision.
Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je me permets de nous ramener à l'essentiel. Les élections à venir, la DMK dit ne pas trouver d'intérêt aux élections régionales, mais pour les législatives, vous avez dit que vous vous battez pour obtenir des conditions d'élection inclusives et transparentes, au-delà même de votre regroupement aux besoins, et que vous espérez avoir la bénédiction de Monseigneur Poudreau dans ce cas. Mais d'ici là, le recensement électoral qui est déjà annoncé à partir du 29 avril, dans ce sens-là, quel est le message?
Le message est très clair. C'est de ne pas commettre l'erreur de dire on ne va pas se faire recenser. C'est un appel à tous nos compatriotes pour que le moment venu, ils aillent se faire recenser. Mais c'est aussi le travail que nous devons faire pour exercer une vigilance dès ce stade-là de recensement où il y aura encore certainement des manœuvres pour biaiser les choses, pour faire en sorte que, à la suite de ces élections, on garde le pouvoir. Mais nous resterons vigilants. Les Togolais et les Togolaises n'ont qu'à tous se préparer à aller se faire recenser, que chacun individuellement soit vigilant et dénonce ce qu'il y aura comme irrégularité. Nous allons mettre en place un mécanisme pour recueillir ces irrégularités, un mécanisme pour surveiller.
Et je rappelle pour terminer que vous souhaitez que pour les élections à venir, les résultats soient proclamés
bureau de vote par bureau de vote.
Ainsi, chacun pourra
voir ce qui avait déjà été demandé et obtenu, mais que le régime n'a pas appliqué en 2020, ce qui a expliqué l'interpellation de l'ambassadeur des États-Unis. Cette question est sur le tapis cette fois-ci. On va s'entendre là-dessus.
Merci, madame. Je vous rappelle que vous êtes suivie non seulement sur Canal FM à Lomé ici, mais sur les antennes des radios partenaires, Radio Lumière, Radio La Voix des Plateaux à Atakpamé, Radio Centrale FM à Sokoré, Radio Sama FM à Baga, Niamtougou, Radio Daoula Bassa, Radio Courtoisie à Dapan et dans le monde entier. Le Club La Presse vous retrouve demain vendredi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.